que c'est l'heure du journal présenté par Camille Magnard. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Accord et désaccord majeurs au sommet européen de Bruxelles. Les dirigeants de l'UE se séparent sans vraiment parvenir à masquer leur division. Nous serons en ligne dans un instant avec Quentin Dickinson pour tenter un bilan de ces deux jours. Sur la question migratoire, nous entendrons les réserves, pour ne pas dire les critiques très claires, de Médecins sans frontières sur le texte qui a été approuvé à l'aube par les 28. Deux jours avant son entrée au Panthéon, le cercueil de Simone Veil est exposé au mémorial de la Shoah aujourd'hui et demain avec celui de son époux Antoine, un moment de recueillement et d'hommage intime pour ceux qui, comme la femme d'État, ont connu l'horreur des camps nazis. Nous verrons cela avec le reportage de Tiphaine Honoré. Procès d'assises hanté par le spectre de l'antisémitisme à Créteil. 5 hommes jugés pour l'agression d'un couple juif, suivi par Antoine Marette. Le sport comme thérapie pour des enfants atteints d'un cancer du sang. C'est un projet mené à l'hôpital Trousseau à Paris avec des résultats à la clé, nous dira Tara Schlegel. Et puis la mobilisation des auteurs français. Nos plumes ne veulent plus se laisser plumer. Explication en fin de journal avec Cécile de Kervas-Doué. Rarement on avait vu autant de questions et de désaccords à peine voilés à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Cet après-midi, la rencontre des dirigeants de l'Union s'est terminée après deux jours donc de discussions tendues et d'accords désaccordés sur la crise migratoire, on va y revenir, mais aussi sur le Brexit qui s'annonce. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir, bonsoir à tous.
En fait, Quentin, s'il y a un sujet tout de même sur lequel les 27, donc les 28 moins la Grande-Bretagne, ont réussi à affirmer une position commune, c'est bien justement celui du Brexit, une position que l'on pourrait résumer ainsi, Quentin, incompréhension et impatience des Européens face aux Britanniques.
Et oui, car les faits sont là, ils sont têtus. Pendant que le torchon brûle entre les membres du gouvernement britannique, le sablier, lui, s'écoule comme si de rien n'était, et l'on s'achemine inexorablement vers le mois d'octobre, au-delà duquel il ne sera plus matériellement possible de procéder aux multiples ratifications parlementaires dans les délais impartis par le traité de Lisbonne, c'est-à-dire, vous le savez, avant le 29 mars 2019. C'est pourquoi, d'impensable il y a 3 mois seulement, l'hypothèse d'une absence d'accord de défaisance fait aujourd'hui l'objet d'un examen juridique et d'un chiffrage par secteur économique de la part des services de la Commission européenne. En attendant que les Anglais nous disent enfin ce qu'ils veulent, disait aujourd'hui un négociateur européen, eh bien il faut bien qu'on s'occupe et que l'on prévoie le pire. Alors, tout s'oriente maintenant autour de la question de la frontière inter-irlandaise, au détriment des questions financières, du statut des citoyens expatriés des uns chez les autres et des futures relations de l'Union européenne avec le Royaume-Uni post-Brexit, autant de dossiers qui possèdent leur propre complexité et l'optimisme n'est vraiment pas d'actualité.
Alors Quentin, on attendait des avancées sur le projet de budget de la zone euro qui, on le sait, est très cher à Emmanuel Macron. Il est étonnant de voir que ce dossier-là est absent des conclusions du sommet. Par contre, il y a un autre dossier que l'on n'attendait pas forcément mais qui semble faire son chemin parmi les 27, c'est celui de la défense européenne.
Oui, et la défense européenne, voilà probablement le thème qui aura été le plus éclipsé par l'interminable déballage sur la gestion des flux migratoires. Le premier principe affirmé par les 28, pour citer le communiqué, c'est que l'Europe doit s'assumer et assumer une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité et soutenir son rôle de partenaire crédible et fiable dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'Union, peut-on encore lire, prend donc des mesures pour soutenir la défense européenne sur 3 plans, en renforçant les investissements dans la défense, le développement des capacités et la disponibilité opérationnelle. Fin de citation. Le second principe est celui de la parfaite complémentarité entre l'UE et l'OTAN. L'embryon de la défense européenne s'appelle la coopération structurée permanente, la PESCO pour les spécialistes. On ne sait pas si cette désignation particulièrement opaque est de nature à tromper l'ennemi. En tout cas, les projets concrets devront être lancés dès le mois de novembre de cette année et il faudra pour la même échéance déterminer la participation d'États tiers, lisez le Royaume-Uni post-Brexit. Tout cela a un coût et les participants au sommet ont béni le Fonds européen de défense et ils ont parallèlement requis l'accélération du programme européen de développement industriel de la défense. Enfin, la nouveauté, c'est l'extension de la notion de défense à la désinformation et à la cybercriminalité.
Quentin Dickinson, merci beaucoup en direct de Bruxelles. Sur l'autre question que vous évoquiez et qui a hanté ce sommet, celle de la politique migratoire des 28, il y a une question là qui reste sur toutes les bouches. Cet accord arraché au petit matin est-il une vraie réponse à l'urgence de la crise ou bien un sparadrap de plus sur une plaie béante? C'est plutôt vers cette dernière analyse, il faut bien dire, que penche l'ONG Médecins sans frontières depuis l'Aquarius, devenu bien malgré lui un symbole des renoncements européens en matière d'accueil des exilé. Aloïs Wimard de MSF réagit aux mesures proposées par les États membres.
On observe que les États membres de l'Union européenne, ils abdiquent devant leur responsabilité de sauver des vies en mer. et il condamne en fait les personnes vulnérables soit à être bloquées en Libye, coincées dans des conditions inhumaines qu'on connaît en fait aujourd'hui, on peut plus le cacher, ou soit à périr en mer. Et c'est ces mêmes dirigeants qui condamnaient les rapports il y a quelques mois faisant état d'esclavagisme en Libye, mais aujourd'hui ils n'ont aucun problème à maintenir ces personnes vulnérables dans ces conditions, et pourtant la situation en Libye n'a pas changé. Sauver des vies en mer n'est pas un crime, et pourtant le message des gouvernements européens aujourd'hui est clair. Et l'assistance humanitaire n'est pas la bienvenue. Donc c'est extrêmement douloureux. On nous pousse à tourner le dos à des personnes en détresse. MSF demande au gouvernement européen de faire preuve d'un minimum de décence et rappelle en fait qu'il s'agit de vie humaine et simplement de souffrance.
Aloïs Vimard, MSF, au micro de notre envoyé spécial Maureen Mercier, à bord de l'Aquarius, un navire humanitaire qui ne verra l'Italie qu'en carte postale cet été. Les mots sont ceux de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui lui s'est félicité de l'accord trouvé à Bruxelles. Même satisfaction exprimée par le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui salue un grand pas franchi avec pour la première fois cet accord pour aller créer des centres de réfugiés hors de l'Union européenne. Sur les centres d'accueil, cette fois sur le sol européen, eh bien Emmanuel Macron a clairement dit ce matin que la France refuserait d'en héberger car elle n'est pas un pays de première arrivée pour les migrants, et cette justification a été immédiatement repoussée par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, pour qui Macron devait être fatigué quand il a dit ça, car selon l'Italien, rien ne dit dans l'accord trouvé ce matin que les centres d'accueil doivent être dans des pays déterminés. Voilà donc encore beaucoup de désaccords sur cet accord, et pendant ce temps au large de la Libye, ce matin, une centaine de personnes sont mortes noyés selon les 14 rescapés du naufrage de leur embarcation. 3 bébés se trouveraient parmi les victimes. Emmanuel Macron lui est attendu dans 3 jours à Nouakchott en Mauritanie, sommet de l'Union africaine où le chef de l'État doit rencontrer ses homologues du G5 Sahel. L'organisation régionale regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie pour lutter contre les djihadistes de la région du Sud-Sahara. Une force dont le quartier général à Sévaré dans le centre du Mali a justement été la cible aujourd'hui d'une attaque terroriste. Un kamikaze s'est fait explosé après avoir tenté d'entrer dans la zone militaire. Le bilan provisoire de cette attaque évoque 6 morts. La République française n'avait plus réservé tel hommage depuis 2015 et la panthéonisation des résistants Pierre Brossolette et Jean Zay. Ce dimanche, ce sont Simone Veil et son époux Antoine qui seront reçus au Panthéon, cérémonie entourée de tout le protocole républicain. Mais pour un recueillement plus intime, depuis ce matin, les deux cercueils sont exposés au mémorial de la Shoah, au cœur de Paris, où vous vous êtes rendu. Bonsoir à Tiphaine Honoré.
Bonsoir Camille.
Après, avec parmi ceux qui ont tenu dès ce matin à venir rendre une dernière visite à Simone Veil, eh bien, plusieurs rescapés comme elle des camps de la mort nazie.
Oui, devant le mur des noms inauguré en 2005 par Simone Veil, Michel Chabasson cherche celui de son père déporté en 1942.
SZA, vous voyez, là, mon père c'est Joseph Chabasson.
75 ans plus tard, la question de l'identité est pour lui toujours aussi vive.
Elle a été déportée parce qu'elle était juive. Sa famille est morte en déportation parce qu'ils étaient juifs. Donc il ne faut pas oublier nos origines. Même si moi je ne suis pas croyant. Mais on ne peut pas oublier, c'est particulier. Si vous l'oubliez, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler.
Préserver la mémoire de cette tragédie, c'était l'un des combats de Simone Veil. Et c'est aujourd'hui dans la crypte du mémorial qu'elle repose avant d'entrer au Panthéon, où elle sera la première déportée raciale. Ce matin, autour de son cercueil, un grand silence régnait, ponctué par les noms des déportés du convoi 71 qui l'a menée à Auschwitz.
Adler Anna, Akar Françoise, Akar Georges.
Un moment de recueillement qui ravive chez Zo, Robert Zisman, des souvenirs toujours aussi vifs.
Bon, j'ai 80 ans et ça ressurgit. La mémoire, enfin, ce qu'on croyait oublié n'est pas oublié, revient avec beaucoup plus d'acuité.
À la sortie, Hélène Senkovski, membre de sa famille, se souvient du lien particulier qu'elle entretenait avec ce lieu.
Le mémorial de la Shoah représentait pour elle quelque chose d'extrêmement important. Elle était une des fondatrices, cofondatrices du mémorial. C'est extrêmement émouvant dans la crypte parce que de voir les deux cercueils qui sont en plus veillés par la garde républicaine, c'est quelque chose de fabuleux.
Chacun peut venir s'y recueillir jusqu'à samedi soir.
Tiphaine Honoré, merci beaucoup. C'est la fin de la première semaine d'audience au procès des assises du Val-de-Marne à Créteil, donc, où l'on juge 5 hommes accusés d'avoir agressé un couple au cours d'un cambriolage où la femme avait été violée. Le caractère antisémite de cette agression a été retenu au moment du renvoi aux assises. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Ce matin, les jurés entendaient le témoignage de Jonathan, l'homme du couple victime.
Jonathan qui s'avance à la barre, il a la vingtaine, son costume gris laisse deviner une carrure massive. Jonathan est un ancien gendarme, il a grandi à Créteil, il évoque son éducation, des valeurs de vivre ensemble dans cette banlieue populaire, sa scolarité sans problème à l'école publique. Mais depuis le début des années 2010, quelque chose a changé dans le quartier de ses parents. L'odeur de la drogue y est devenue omniprésente et puis il y a ces tags antisémites qui souillent parfois les murs. Jonathan est juif, mais il n'est pas pratiquant, contrairement à ses parents. C'est chez eux, en leur absence, que l'agression a lieu un matin de décembre 2014. Jonathan s'y trouve avec sa compagne Laurine. On sonne, c'est Laurine qui va ouvrir la porte. Jonathan entend un claquement, des cris. Trois hommes cagoulés entrent, armés d'un 9 mm et d'un fusil à canoncier. Le couple est attaché très rapidement. L'un des agresseurs fait allusion à la judaïté de la famille de Jonathan. « On n'est pas là pour rien », affirme-t-il. « On sait que vous avez de l'argent. On sait que les Juifs ont de l'argent et les Juifs, ça ne met pas l'argent à la banque. » Il a repéré quelques jours auparavant le père de Jonathan avec son rond sur la tête, comme il dit, pour désigner la kippa que porte le retraité. Mais les trois hommes ont beau fouiller l'appartement de fond en comble, ils ne trouvent ni l'argent, ni les objets de valeur qu'ils cherchaient. Alors ils s'énervent. L'un des agresseurs lance des couteaux de l'argenterie familiale sur Jonathan. « Il jouait aux fléchettes avec moi », dit Jonathan. « Je me suis dit, j'espère juste que ça ne va pas finir comme Ilan Halimi. » À un moment, il entend « On va les gazer ». Les trois hommes saisissent ensuite les symboles religieux juifs dans le salon et les cassent. L'un d'entre eux lui dit « C'est pour nos frères en Palestine ». L'agression dure 1 heure et demie, faite de menaces, de violences et du viol de Laurine. La jeune femme a été auditionnée en fin de matinée à huis clos. Elle est ressortie en larmes de la salle d'audience.
Récit d'audience signé Antoine Maret. Merci à vous. Itinéraire à présent d'un magistrat gâté. C'est officiel, la chancellerie française propose François Molins, l'actuel procureur de Paris au sein des saints de la magistrature française. Le poste de procureur général près la cour de cassation qui est occupée par Jean-Claude Marin. François Molins est devenu depuis 2015 et au fil des attentats terroristes pour lesquels il était en première ligne médiatique le visage le plus connu de la justice française. Il est 18h12 sur France Culture. Il parle de simples examens et actes médicaux. Elles décrivent une maltraitance, voire parfois des violences physiques comme psychiques. À l'appel de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, l'été dernier, des milliers de femmes françaises ont témoigné de ces violences subies lors de consultations de gynécologie ou d'obstétrique. Et cet après-midi, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, rendait public le premier rapport sur le sujet de ces violences gynécologiques et obstétricale, trop souvent tue par les femmes et minimisée par les hommes. Comment expliquer ce décalage? C'est la question posée par Lucie Barbarin à Claire Giraud, la secrétaire générale du HCE.
On l'explique parce qu'en fait, le suivi gynécologique obstétrical, c'est une discipline un petit peu particulière. On estime que dans la vie d'une femme, elle aura environ 50 consultations pendant lesquelles elle va être amenée à se déshabiller, à être allongée, les jambes en l'air et avoir un médecin qui va lui toucher le sexe, les seins, qui va évoquer sa sexualité, son intimité, son envie d'avoir des enfants. Donc c'est des rendez-vous qui n'ont rien à voir avec des rendez-vous de soins habituels, puisque d'ailleurs ces femmes-là ne sont pas malades, mais c'est des rendez-vous très particuliers. Et cette gêne, le fait que ce soit des rendez-vous de l'intime n'est aujourd'hui insuffisamment pris en compte, ce qui amène à des ressentis de ces patientes de gêne, voire de violence. La priorité, c'est la formation initiale et continue des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des sages-femmes, pour qu'ils aient bien conscience qu'au-delà des actes médicaux qu'ils pratiquent, ils ont en face d'eux une personne, une humaine, et que ces rendez-vous gynécologiques sont très particuliers et que cette particularité, elle doit être prise en compte. Donc la formation initiale et continue des médecins, ça nous semble tout à fait essentiel, puisque aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est, en tout cas, ce ne sont pas des actes isolés, mais malgré tout, c'est le signe d'un phénomène commun entre tous ces actes, qu'est le sexisme. traumatisme. Et bien sûr, tous les médecins et les professionnels de santé n'ont pas conscience ni l'intention d'être maltraitants et de commettre des violences sur ces femmes. L'enjeu, c'est donc d'être formé à ces questions-là, qu'il y ait des bonnes pratiques, des recommandations de bonnes pratiques très claires qui soient formulées et qui soient ensuite transmises aux praticiennes et aux praticiens.
Claire Guiraud, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, avec Lucie Barbarin. On reste dans le domaine médical. Le sport pour mieux vivre sa maladie, ça c'est le credo d'une association qui s'appelle La Camille et qui depuis 3 ans à l'hôpital parisien Trousseau accompagne des enfants atteints de cancer du sang en leur proposant une activité physique comme thérapie de complément. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Presque 60 enfants pris en charge cette année et une formule qui a l'air de plutôt bien fonctionner.
Oui, ils ont 6 à 17 ans. 2 fois par semaine, Thierry Mueller de l'association La Camille va tenter de faire bouger ses enfants atteints de leucémie malgré la douleur, la fatigue et d'autres tentations.
Il va regarder la télé ou il va être sur son téléphone ou sur ses tablettes et c'est bien plus passionnant que le prof d'activité physique qui arrive. Donc il faut leur donner le choix en leur imposant, si j'ose dire. Mais tout ça en toute douceur, tranquillement. Un enfant peut être dans un moment où il ne peut absolument pas faire de sport.
Alors,
pour autant, il peut bouger. Il faut savoir ce qu'on attend du corps.
Alors quand les petits ont trop mal, Thierry leur propose de rester allongés et après les étirements.
On va rechercher des efforts dans le corps, alors des efforts mesurés en fonction de leur situation. Alors je mens souvent, je leur dis on va faire 5 minutes et puis ça dure 20, ou voire une demi-heure. Mais on repart avec le sourire. Puis des fois quand je dis ça dure 5 minutes, parfois je dis ce sera que 5 minutes parce qu'il y a malheureusement des moments compliqués à gérer.
Pour Nadia Marquis, l'infirmière puéricultrice, ces activités apportent un autre regard sur les malades. Elles sont tellement moins contraignantes que les soins.
Il y a des enfants qui sont complètement fermés et moi ce que j'aime savoir c'est que est-ce qu'après la séance du coup comment pour lui ça s'est passé parce qu'on découvre l'enfant autrement. Donc des fois on est surpris de non ça s'est super bien passé. Ah bon, parce que nous on n'y arrive pas et on peut se dire que cet enfant n'est pas tout en triste dans la journée. Voilà, donc c'est complémentaire.
L'objectif est donc d'apporter un mieux-être pendant l'hospitalisation qui dure longtemps, 5-6 semaines, explique le chef de service Guy Leverger. C'est tellement important pour le moral des enfants.
Est-ce que bouger les aide à guérir, c'est difficile à démontrer aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que nous progressions dans l'évaluation de cette pratique. Néanmoins, voir leur donner confiance, d'abord s'occuper de leur corps, et leur donner confiance et leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses dont peut-être ils n'imaginaient pas qu'ils puissent le faire, est un atout très important pour ces enfants.
100% des parents à Trousseau recommandent en tout cas cette activité physique pour leurs enfants hospitalisés, activité financée, il faut le dire, grâce à la fondation Apicil qui lutte contre la douleur.
Tara Schlegel, merci. D'un côté, il y a la bonne forme de l'édition française, 100 000 livres parus l'an dernier dont la moitié sont des nouveautés. Et puis de l'autre, il y a la colère des auteurs. Eux s'estiment méprisés par leurs éditeurs, très inquiets aussi des futures réformes fiscales et sociales que prépare le gouvernement. Les auteurs français se mobilise donc depuis quelques mois dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Nous vous en parlions ce matin sur France Culture dans notre reportage interactif hashtag. Nos plumes sont déterminées à ne pas se laisser plumer, Cécile Le Carvaz-Doué.
Paye ton auteur, plume pas ton auteur, auteur en colère. Les mots dièses ont fleuri sur les réseaux sociaux depuis l'automne dernier. Ce sont les auteurs du livre qui les ont lancés, mais ils ont été rejoints depuis par les artistes auteurs, c'est-à-dire illustrateurs, graphistes, compositeurs, plasticiens, chorégraphes, qui sont 270 000 en France à partager le même statut spécifique. Statut qui répond souvent à leur précarité, puisqu'il faut savoir qu'en France, un auteur de livre, par exemple, reçoit moins d'un huitième du prix de son œuvre, le reste allant aux éditeurs, diffuseurs et libraires. Le syndicat national du livre a beau rappeler que les droits d'auteur ont augmenté l'année dernière de 1,64%, c'est insuffisant, clament les auteurs, surtout face aux réformes qui visent à les faire passer au régime général dès le 1er janvier prochain, avec prélèvement de l'impôt à la source, quand les auteurs ne sont souvent payés qu'une fois par an, hausse de la CSG mais sans compensation systématique et cotisation en retraite dès le premier euro perçu. Après avoir demandé pendant des mois à discuter de ces réformes, une vingtaine d'organisations d'auteurs a été reçue mercredi soir au ministère de la Culture par Françoise Nyssen, qui assure que la défense des auteurs et des artistes est son grand combat.
Il était urgent de rassurer la communauté des artistes et des diffuseurs et des auteurs sur notre détermination à accompagner les transformations techniques. Nous voulons être à leur côté et qu'ils aient un régime spécifique et de qualité.
D'autres concertations de ce type sont prévues 2 fois par mois au ministère d'ici la mise en place des réformes pour tenter de garantir un niveau de vie digne aux auteurs. Reste à savoir si le reste du gouvernement sera ou non sensible à ces revendications.
Cécile Le Kervas-Doué, pour retrouver l'histoire complète de cette mobilisation des auteurs, on retrouve en une de notre site franceculture.fr un dossier complet avec également notre hashtag reportage multimédia interactif qui comprend nombreux reportages de professionnels de la chaîne du livre. Avant de refermer ce journal, un premier succès pour le réacteur nucléaire EPR, c'est en Chine qu'il faut aller le chercher. EDF et son homologue chinois, l'opérateur CGN, annonce qu'un réacteur, le premier installé donc en Chine de la catégorie EPR, a été pour la première fois raccordé avec succès au réseau électrique. Jamais encore un de ces réacteurs n'avait franchi cette étape. On connaît les retards accumulés pour l'EPR de Flamanville, mais donc en Chine, la technologie semble donner de premiers résultats. Côté météo, enfin, autour de l'Hexagone, voici venir le premier épisode caniculaire de l'été. Vigilance orange à partir de demain, 10h sur le département du Rhône, Lyon et son agglomération. Donc, ils vont voir le thermomètre monter à 34 degrés demain, 39 même dimanche. Ailleurs, ce samedi sera également beau et chaud, 20 à 28 degrés du nord au sud le matin et de 24 à 32 l'après-midi. Ce journal était préparé avec Jean-François Braun à 19 et 22h. Vous retrouverez Mathieu Laurent.